Alors, que sait-on maintenant? Parce que pour l'instant, j'ai fait beaucoup d'histoires, etc. Bon. Que sait-on maintenant? Bon. Aujourd'hui, le modèle décrit par le maître a été absolument vérifié dans toutes les limites, enfin, dans les limites de l'observation actuelle. Donc, en fait, les satellites, les observatoires, etc., ont confirmé l'idée que le monde est en expansion. Alors, ici, j'ai mis en ordonnée les distances des objets dans l'univers, en abscisse, le temps. Les échelles ne sont pas homogènes, parce que ici, vous avez des fractions de secondes, ici, vous avez des centaines de milliers d'années, et puis vous avez des milliards d'années. Mais bon, peu importe. L'univers est en expansion, c'est-à-dire que la distance entre les objets augmente. En plus, il y a une dizaine d'années, on a découvert que le monde réaccélérait. C'est-à-dire que la distance entre les objets, non seulement s'écarte, mais s'écarte avec une vitesse qui change. Et donc, il y a une accélération de l'expansion de l'univers, ce qui se traduit par une reprise de l'expansion. Okay? Donc, le monde commence par un état très chaud, très dense. Et ça, on le voit par quoi? Mais justement, par cette découverte qui a été faite en 65. Et en 65, des ingénieurs de la Bell Telephone, qui cherchaient à réduire le bruit de fond dans leurs antennes, ont découvert qu'il y avait un bruit de fond résiduel. Et ils avaient toujours une espèce de bruit de fond, et ils changeaient la position de l'antenne, et on trouvait toujours le même résultat. Ils ont essayé de capturer les pigeons qui se situaient dans l'antenne, avec des cages, on a enlevé les pigeons, on a nettoyé l'antenne, on l'a tournée dans tous les sens, et il y avait toujours un bruit de fond minimal. Et à un certain moment, il y en a un qui a dit, mais tiens, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu à l'université de Princeton. Il y a un groupe qui a justement calculé que si l'univers commençait par une sorte d'état très chaud, etc., et se refroidissait, on devrait trouver aujourd'hui un rayonnement qui baigne tout l'univers et qui est la trace de cette chaleur initiale, si vous voulez. Et ils se sont rendus compte que le bruit de fond qu'ils avaient dans leurs antennes, c'était exactement la température que devrait avoir l'univers aujourd'hui s'il avait commencé par ce début, on pourrait dire, explosif. Et à ce moment-là, on découvre que dans toutes les directions du ciel, on a ce même rayonnement qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, parce que ce n'est pas un rayonnement qui vient d'une source donnée dans l'univers, c'est un rayonnement qui baigne tout l'univers, très homogène et très isotrope. Donc les petites variations, les petites irrégularités dans ce rayonnement, c'est de l'ordre du 100 000e de degré Kelvin. Donc c'est très homogène. Hein. Donc si vous voyez une patinoire parfaitement plane, mais seulement des petites irrégularités du 100 000e de millimètre, par exemple. Eh bien, le bruit de fond, c'est comme ça. Vous avez une régularité absolue dans toutes les directions. Et donc, ça ne peut être qu'un phénomène cosmologique. Et à partir de ça, les gens se sont dit, eh bien, on va étudier ce rayonnement de fond, et ça va donc nous apprendre des choses sur les débuts de l'univers. Et de fait, ça nous a appris énormément de choses, ça a validé la théorie du Big Bang, et quand on regarde ce rayonnement, on s'aperçoit que ça révèle une photo de l'univers très tôt dans son histoire, et de fait on voit que l'univers était très condensé, très chaud, etc. Alors pour donner une idée de cela, quelle est l'origine de ce rayonnement? En fait, plus on retourne dans le passé, plus l'univers devient chaud et condensé. Alors, que s'est-il passé dans les premiers moments de l'univers? Et c'est là quelque chose d'assez important. Au tout début, on n'en sait rien, parce qu'en fait, on n'a pas la théorie qu'il faut pour vraiment comprendre ce qui se passe dans les toutes premières fractions de secondes. Donc, entre 0 et 10 exposant moins 43 secondes, on n'a pas la bonne théorie aujourd'hui pour savoir dire quelque chose. Donc, on dit rien. Sauf, on laisse aux physiciens, aux théoriciens et aux mathématiciens le soin d'inventer des choses très belles, etc., mais qui ne sont pas encore aujourd'hui validées. Ici, on ne peut rien dire avec certitude. Par contre, dans les autres fractions de secondes, si on monte un peu dans le temps, on pourrait dire, on sait ce qui se passe entre 10^-33 secondes et 10^-12 secondes. On sait là, au grand, à ces énergies-là, on avait une soupe de particules élémentaires. Une soupe, une sorte de plasma de particules élémentaires, et ces particules ne sont pas en un nombre très grand, et c'est ça qui fait la beauté de l'univers. Tout l'univers repose sur un nombre très petit de sortes de particules. Donc que l'on soit araignée, dinosaure, rétroprojecteur, avion ou moi, ou vous, nous reposons sur un petit nombre de classes de particules. Et le fait qu'il y ait un très petit nombre de classes de particules fait que le monde est exceptionnellement intelligible. Vous vous souvenez de cette phrase de Einstein à Solovin, hein, ce qui est de plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Ce qui est très étrange, c'est que le monde soit compréhensible. Et pourquoi le monde est-il compréhensible? Pourquoi est-il intelligible? Alors qu'il est assez étrange, mais il est profondément intelligible, parce que sa structure est extrêmement simple. Maintenant, avec du simple, on peut faire beaucoup de complexe. Quand le simple est en interaction, il fait de la complexité. Mais on aurait pu s'attendre à une flopée de particules très étranges, très particulières, en nombre et énormes. Et donc, quelque chose qui ne serait pas unifié. Aujourd'hui, on sait que l'univers repose sur seulement deux classes de particules et quatre interactions. En plus, quand on remonte dans l'histoire de l'univers, les quatre forces qui existent aujourd'hui n'en font plus qu'une. Alors ça, c'est de la physique. Maintenant, réfléchissons à cela philosophiquement. Est-ce que c'est la même chose, un univers qui serait d'une complexité telle qu'on ne pourrait pas le comprendre, ou d'un univers où les mathématiques qui permettent de le comprendre sont relativement simples et les concepts fondamentaux sont en très petit nombre? Mais dans le fond, philosophiquement, c'est intéressant parce que, un, on a l'idée d'une unité profonde du cosmos. L'araignée, l'arbre, la table et moi, nous sommes faits des mêmes matériaux. Arrangés différemment, hein, heureusement. Mais nous sommes faits des mêmes briques. Profonde unité du cosmos. Et profonde intelligibilité du cosmos, parce que les lois qui décrivent le comportement de ces constituants sont des lois connues et relativement simples. Intelligibilité et unité profonde du cosmos. Alors ça, c'est interpellant philosophiquement. Le monde n'est donc pas un chaos rationnel. Et le fait qu'il soit profondément intelligible pose la question, éventuellement, d'une source de l'intelligibilité.
Pourquoi
intelligibilité? Parce que l'intelligence peut comprendre le monde, à partir de lois et de constituants relativement simples. D'accord? Il y a donc une profonde intelligibilité. L'esprit peut comprendre et rejoindre quelque chose qui est comme une pensée à l'œuvre dans le monde. Ce qui laisse le théologien libre de dire, mais n'est-ce pas la trace d'une intelligence? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un reflet d'un logos à l'œuvre, dans une pensée à l'œuvre, dans cet univers? Ce n'est pas un chaos rationnel, c'est au contraire l'expression d'une structure profondément intelligible. Ça, c'est la première remarque que je ferai. Bien sûr, on peut penser autre chose. On peut penser que c'est la structure éternelle d'une matière qui n'a pas besoin de créateur. Mais oui, la physique ne conduit pas directement à la pensée créatrice. Mais quelque chose de l'intelligence divine n'est pas incohérent avec cette beauté structurelle et cette unité de l'univers physique. Ce que Benoît XVI appelle dans un de ses textes de Mathematics inbuilt in the universe, hein, comment est-ce qu'on dirait, incorporé, les germanistes, les anglophones, comment est-ce qu'on dirait, incorporé, inbuilt, la mathématique comme inviscérée, incorporée, construite dedans, enfin, hein, donc on pourrait dire, allez, incorporer cette structure mathématique qui révèle quelque chose de d'un logos à l'œuvre, si vous voulez. Bon. Donc, profonde unité. Plus je remonte dans le passé de l'univers, plus je suis confronté à une sorte de soupe de particules élémentaires en nombre, en espèces très petites. il n'y a que deux constituants fondamentaux de la matière. Ce qu'on appelle les quarks et les leptons. Alors, en gros, les quarks, ce sont les constituants fondamentaux des protons et des neutrons. Et les protons et les neutrons, ce sont les constituants fondamentaux des noyaux. Vous voyez ? Bon. Pourquoi y a-t-il donc des atomes ? Il y a des atomes parce qu'il y a des noyaux autour desquels on a des électrons. Pourquoi y a-t-il donc des noyaux ? Parce que les noyaux sont constitués de protons et de neutrons. De quoi sont faits les protons et les neutrons ? De particules plus fondamentales qu'on appelle les quarks. Et il n'y a pas un nombre très grand de familles de quarks, il n'y a que trois familles de quarks. Donc ce que j'ai symbolisé ici, on les appelle les quarks up et down, charm et strange, top et bottom. Ce sont des noms qu'on donne à ces particules élémentaires. Et par exemple, le neutron est formé d'un quark up et de deux quarks down. Le proton est fait de deux quarks up et d'un quark down. Autrement dit, le proton et le neutron sont des petits sacs qui contiennent trois particules élémentaires. En deçà, on ne trouve rien jusqu'à présent. Donc on n'a pas pu remonter au-delà des quarks. D'accord ? Mais donc les quarks sont essentiellement responsables de ce qui donnera le noyau. Et les électrons, l'électron fait partie de particules qu'on appelle les leptons, et il y a aussi trois familles de leptons. Chaque famille étant associée à une famille de quarks. Donc de quoi est fait la matière ? De quarks et de leptons. Les quarks, c'est ce qui va donner les noyaux, et les leptons, c'est entre autres l'électron qui tourne autour du noyau. Les autres étant le muon et le tauon, ce sont, si vous voulez, des sortes d'électrons massifs qui, en se désintégrant, redonnent l'électron. Autrement dit, la matière, toute la matière de l'univers, n'est faite que de deux classes de particules. Et ça, c'est étrange. D'accord ? Ça, c'est étrange.